le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue pour une émission Cinérama qu'on pourrait intituler ou sous-titrer Eros et Thanatos. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu. Et donc oui, Eros et Thanatos parce qu'il va être question de mort, notamment avec Near Death Experience, le dernier film de Gustave Kervern et de Benoît Delépine. Et puis toi Marine, tu nous parleras aussi d'une autre mort, mais celle-ci, le boulevard de la mort.
Oui, alors moi aujourd'hui, dans Que sont-ils devenus ? Eh bien, je vais vous parler donc des comédiennes de Boulevard de la Mort, dont on se rappelle tous de Quentin Tarantino, et je vais un petit peu vous dire ce qu'elles sont devenues.
Et puis, il sera question d'Eros, alors ce sera avec toi, Manu. Hein.
Eros, avec Sextape, peut pas parler vraiment d'érotisme. Hein. Allez, un peu de sexe, mais.
Un peu de sexe.
Voilà.
Et puis, il sera question aussi de Polar, dans la série Polar des années 80, tu as trouvé le titre Polar.
Polar, une adaptation d'un roman de Manchette.
Et vous pourrez jouer aussi un blind test spécial romancier, écrivain, à l'écran. Mais on commence avec Sextape.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Sur Divergence FM.
Les plus optimistes ont pensé que l'échec de Sextape au box-office aux États-Unis va amener les producteurs à réviser leurs copies et se tourner vers des projets moins tapageurs. Alors ne vous leurrez pas, car le succès incompréhensible au même moment de nos pires voisins ne risque pas de changer la donne. L'humour pipi-caca bas du front saupoudré d'une bonne dose de moralisme républicain a encore de beaux jours devant lui. Car ne vous y trompez pas, toutes ces comédies pseudo-trash initiées par les productions Apatow véhiculent le même vieux fond rance stipulant qu'il y a un âge pour tout. En gros, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre n'importe quoi, mais en vieillissant, il faut se rendre à l'évidence, vous devenez responsable et vous devez rentrer dans le rang. Alors un tel conformisme idéologique laisse songeur, d'autant que le système Apatow, enfin tous ces films-là, est largement défendu dans la presse, généralement. Ces films-là ont de bonnes critiques et même si parfois c'est certains de ces films, comme 40 ans toujours plus tôt, sont assez drôles. Je reste assez un peu dubitatif devant l'aspect
idéologique,
très moraliste et idéologique, un peu vieillot, quoi. Alors, Sextape ne déroge pas du tout à la règle. Le postulat de départ est amusant en soi, quoique un petit peu daté. Alors, écoutons un extrait qui résume à peu près le film.
On part sur quelle histoire ?
Une histoire ?
Oui.
Je suis pas sûr que l'histoire soit importante.
Si, oh, s'il te plaît. Ah, il me vient une autre idée, là.
Vas-y, je suis impatient de l'entendre, parce que clairement, t'es inspirée. Et...
Mon idée, c'est ça. Notre histoire est toute trouvée.
Les joies du sexe, on l'a encore.
On fait toutes les positions, on commence tout de suite.
Oh, j'adore ça. Oh, ouais, j'adore. Toutes sans exception.
Ouais, on n'en rate pas une.
Y compris...
Eh ouais, celle-là aussi.
Yes.
Mais on fait aussi...
Ok, ça marche, c'est la règle du jeu.
Ouais, et on filme tout du début à la fin.
T'es un génie. Sérieux, j'ai épousé un génie.
Allez, encore un verre, je dois être plus saoul.
Alors, rien que la bande-annonce montre bien le côté politiquement correct. On annonce toutes les positions, mais on n'en cite absolument aucune. Enfin, c'est assez curieux.
Même pas le lapin vengeur, la brouette espagnole.
Voilà, ouais, c'est assez rigolo. Bon, tout est dit ou presque. On a un gentil couple de trentenaires, Jay et Annie, quoique Cameron Diaz n'est plus trop trentenaire. Bon, ils s'aiment toujours après 10 ans de mariage et 2 enfants, mais question sexe, ce n'est plus tout à fait ça. Alors, pour érotiser leur relation un peu terne, ils décident donc de filmer leurs ébats lors d'une nuit de folie. Mais la vidéo est envoyée par erreur à tout leur entourage via un iPad offert à tout le monde.
Oui. C'est très étrange.
J'ai pas compris en fait le truc. Pourquoi ? Parce qu'on a un iPad sur sa vidéo, tout le monde la recevrait après. Enfin, il doit y avoir quelque chose de nouveau là-dedans en informatique.
Oui,
il s'appelle iCloud.
Ah, c'est ça.
Le cloud.
Mais moi, bref. Alors, affolé, il décide de récupérer tous les iPads chez chacun des destinataires afin d'éviter le scandale. Mais au fond, un scandale de quoi ? Alors, le sexe délire, pourquoi pas, mais il y a des limites. Si vous en venez à vous filmer pendant vos ébats, c'est que quelque chose cloche dans le couple. C'est la bonne morale du film. À savoir, ici, l'âge, le temps qui passe, rien de très anormal au fond. Mais la morale de l'histoire est que si vous vous aimez, vous n'avez pas besoin de ça. C'est le patron de YouPorn, interprété par Jack Black, qui le dit vers la fin du film. Et surtout, pour bien enfoncer le clou, rien ne vaut les sorties en famille. L'épilogue, assez clair, enfonce bien le clou. Alors, 1h30 de pseudo-délire axé sur le sexe pour en arriver là, c'est un peu dur à avaler. Sextape révèle l'esprit un peu putassier et pudibond qui règne sur la comédie américaine. Cette dernière nous prend gentiment par la main pour regarder à travers le trou de la serrure pour mieux nous dire qu'en fait, certaines pratiques en matière de sexe sont plutôt limites. Ce discours hypocrite révèle surtout l'impuissance des auteurs à aller plus loin qu'un pitch pseudo-alléchant. Sextape s'adresse au final à des adolescents boutonneux qui rougissent ou s'esclavent dès que l'on prononce le mot fellation ou cunnilingus. Alors le réalisateur, Jack Kasdan, hein, fils de Laurence, qui était le scénariste des Aventuriers de l'Arche perdue et réalisateur d'un très beau film noir, La fièvre au corps, il ne s'améliore pas, lui, après le tristounet Bad Teacher avec les mêmes comédiens. Le tandem Cameron Diaz-Jason Segel ne fonctionne pas vraiment. Le cabotinage pénible d'une Cameron Diaz vieillissante mais censée incarner une jeune trentenaire devient même assez insupportable. Et quand je lis dans la presse que sa carrière est en déclin, je reste assez dubitatif parce que c'est vraiment une actrice qui n'a jamais eu une carrière intéressante. En fait, hein. Peut-être un de ses meilleurs films, c'est Marie à tout prix, c'est dire.
Oui.
Hein.
C'est vrai. C'est un des seuls que j'ai pu apprécier avec Cameron Diaz. Oui.
Mais c'est vraiment assez lamentable, hein, sa carrière. C'est comme ça. Alors franchement, évitez de voir ce film hein, qui doit passer à peu près partout.
Partout. Ouais. Eh bien, merci, Manu.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Sur Divergence FM.
Et avant de retrouver un blind test spécial, alors écrivain à l'écran, écrivain qui joue les acteurs, nous allons parler de Near Death Experience. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, de Benoît Delépine et Gustave Carverne. Alors nous sommes en septembre, Houellebecq ne sort aucun livre, mais on l'a vu à la télévision sur Arte, dans un téléfilm de Guillaume Niclou, L'enlèvement de Michel Houellebecq, diffusé fin août, et le voilà maintenant donc dans Near Death Experience du duo Delépine-Carverne. Deux rôles bien différents. Alors dans l'un, c'est Houellebecq l'écrivain qui se fait enlever par un trio de non-lecteurs au potentiel comique, et dans l'autre, eh bien, c'est un Houellebecq qui est employé d'une centrale téléphonique, d'une centrale d'appel. Alors même si dans le film de Niclou, tourné comme un documentaire, on ne sait pas ce qu'il dit, s'il le pense vraiment, hein, parce qu'il y a un moment où il souligne que Le Corbusier est en quelque sorte, incarne l'idéologie des camps de concentration, donc c'est quand même assez fort, eh bien ici, il incarne un personnage qui n'est pas lui, mais qui est Paul. Alors Paul a le physique de Houellebecq, hein, la cinquantaine fripée, un penchant pour l'alcool, une famille qui fait ses courses au supermarché, une maison avec un beau canapé, une télévision et un vélo. Et c'est un jour comme un autre, enfin disons un vendredi 13, que Paul dit à sa femme qu'il part faire un tour, une petite demi-heure, il enfourche son vélo avec la tenue qui va bien et ne rentre plus. En pleine nature, au pied d'une montagne, d'une saison qui est chaude, le voilà seul, Paul, lui, quitte les hommes. Alors s'il part dans la nature, c'est qu'il a l'impression d'être arrivé au bout de son chemin, qu'il n'y a plus rien à espérer ni à faire.
Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot. Peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle en somme. Et tout ça s'est effondré. Le trop plein. Le trop vide. M'en fous, je suis mort. C'est là que j'ai merdé. J'ai toujours tout pris trop au sérieux.
Ah, ça, c'est la musique de Black Sabbath, je crois, Manu. C'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Et c'est ce qui a coûté le plus cher pour le film. 30 000 euros de droits d'auteur, voilà. Eh oui, et c'est Canal+ qui a réglé l'addition. Donc, le mieux serait d'arriver à en finir, hein, pour Paul. Il nous le dit, j'ai toujours pensé que se foutre en l'air nécessitait certes du courage, mais aussi de la chance. On ne compte plus les suicides ratés pour cause de dévaines. Voilà. Paul va donc rester dans ce paysage de nature. Alors l'idée du scénario est venue au duo Carverne-Delépine en lisant un fait divers curieux, l'histoire d'un type qui était parti dans la montagne pour se suicider et qui est resté 5 mois en vivant de cueillette. Voilà. Alors pour le coup, Paul pense, lui, que la nature n'a finalement aucun intérêt. Paul pense plein de choses hein, sur lui, ses peurs, comme ce souvenir d'enfant et cette botte en caoutchouc plantée dans la terre qui l'effrayait. Ou alors il pense des choses sur la société. Il dit « j'ai 56 ans et je suis obsolète ». Voilà. Et il rajoute « avant on était vieux, un pépé, on attendait tranquillement la retraite, on vous demandait pas d'atteindre des objectifs, de les dépasser, on vous demandait pas d'être toujours séduisant, d'être habillé en jeune, d'être un homme viril, de baiser encore, de faire du sport, de manger équilibré ». Voilà, donc il y a ce discours-là. Et bon, dit par Houellebecq, c'est encore différent parce qu'on l'a entendu, il a quand même une élocution qui n'est pas facile. Alors toi Marine, tu as une explication, c'est dans « ceux des choses ».
Il a apparemment un dentier en fait qui ne tient pas. C'est vrai qu'il est pourtant un petit peu jeune quand même pour en porter un, mais bon.
Et c'est vrai qu'il faut, il faut quand même tendre l'oreille. Mais bon, il y a ce discours, donc on a l'impression qu'il s'agit d'un texte de Houellebecq, lui qui nous servait un discours semblable dans Extension du domaine de la lutte, hein, adapté au cinéma par Philippe Harel. Et c'est d'ailleurs lui qui interprète Philippe Harel, le premier rôle avec José Garcia, et qui est la voix off. On écoute, pour se remettre un peu dans le bain, un extrait de ce film.
Dans un système économique où le licenciement était prohibé, chacun réussissait plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère était prohibé, chacun réussissait plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulaient des fortunes considérables. D'autres croupissaient dans le chômage et la misère.
Bon week-end.
Bon week-end. En système sexuel parfaitement libéral, certains avaient une vie érotique excitante et variée. D'autres étaient réduits à la masturbation et à la solitude.
Voilà, ça c'est Philippe Harel hein, qu'on entend. On a l'impression que c'est une espèce de Houellebecq plus jeune et un peu plus sémillant, un peu plus sexy. Voilà, on va dire ça. Donc, il s'agit bien d'un scénario et de dialogue et d'une voix off écrit par le duo Kervern des Lépines. Alors, autant dire que ça colle à merveille avec le style Houellebecq, accoutré dans sa tenue de cycliste, les yeux fatigués, le visage fade. Mais ce Paul est plus attachant que l'écrivain et on suit parfois avec un certain ennui quand même, mais aussi avec jubilation son expérience loin des autres et proche de sa mort. Car oui, near-death experience, c'est l'expérience limite, le passage où l'on voit se quitter son enveloppe corporelle et tendre vers les limbes, la lumière blanche. Alors autant dire qu'il n'en sera jamais question hein, dans ce film. Rien de spectaculaire, au contraire, comme toujours chez Kervern et de Lépine, on trouve une certaine âpreté du ton et puis une âpreté eh bien, qui se retrouve dans les images hein, parce que là, ils ont décidé, alors à chaque fois dans leur film, il y a vraiment un grain particulier donné à l'image, soit c'est du noir et blanc, soit c'est une pellicule particulière qu'on ne retrouve par exemple qu'en Pologne ou en Russie. Et là, ils ont décidé de prendre une vieille caméra. Donc, on a l'impression que c'est vraiment proche de la qualité VHS. Hein. Pour ceux qui ont connu le magnétoscope, ils vont retrouver ce grain particulier. Ça veut dire que les personnages sont flous. Enfin, l'optique est vraiment pas bonne. Hein.
D'un coup.
Non, c'est très, très curieux. Hein. C'est vraiment... ouais. Alors, on notera aussi un souci du son hors champ et son organisation dans l'espace du son, hein, typique de leur travail, là aussi. Et j'ai trouvé que c'était relativement remarquable ici. On a l'impression chaque fois qu'ils redécouvrent naïvement les moyens du cinéma. Hein. Ils sont dans une grammaire simple, privilégiant les plans-séquences, appréciant donc les sons hors champ. Et là, c'est particulièrement le cas puisque Houellebecq est quasiment le seul acteur. On n'en voit que deux autres, de plein pied. Mais ceux qu'on voit au début, eh bien, on n'en voit absolument pas le visage. On les entend simplement parler et on voit voilà, en dessous de la ceinture. Donc, Near Death Experience est un objet filmique savoureux avec quand même des dehors anxiogènes, mais quand même une certaine audace et une âpreté finalement qui est plutôt salvatrice. Voilà. Autant dire qu'on le recommande et que ça ne va pas nous empêcher, en tout cas, de jouer un jeu où il va falloir retrouver donc des romanciers, mais pas seulement, c'est des écrivains, donc ça peut être aussi eh bien, des essayistes, des philosophes qu'il va falloir retrouver dans les extraits de films. On commence avec celui-ci.
Ce geste.
C'est toi qui m'as nommé.
J'ai peine à te reconnaître. Tu étais blond.
Pour un film. Cette fois, ce n'est plus un film, c'est la vie.
Tu étais mort.
Comme tout le monde.
Pourquoi reviens-tu par la mer?
Pourquoi? Toujours pourquoi? Vous cherchez trop à comprendre. C'est un grave défaut.
J'ai déjà entendu cette phrase.
Vous l'avez écrite. Prenez cette fleur.
Mais cette fleur est morte.
N'êtes-vous pas expert en phénixologie?
Qu'est-ce que cela?
C'est la science qui permet de mourir un grand nombre de fois pour renaître.
Je n'aime pas cette fleur morte.
On ne ressuscite pas toujours ce qu'on aime. En route.
Où allons-nous?
Ne m'interrogez plus.
Alors, ah ben ça n'a pas été... Ah, je suis
nous
très étonné.
Perdus.
C'est un écrivain, poète.
Cocteau.
Cocteau, oui, tout à fait. C'est le Testament d'Orphée, film de 1960, avec là aussi une audace stylistique quand même. Hein. On retrouve un autre, alors là, l'indice, je pense qu'il est assez reconnaissable, c'est que c'est aussi un réalisateur écrivain lui-même.
Quand vous savez, c'est inouï depuis 3 semaines que j'ai cru lire dans vos yeux. Et avouez, n'est-ce pas, avouez que je me suis trompé, je suis ridicule maintenant pour toujours. À vos yeux que j'adore et qui me regardent fixement exprès pour que je ne puisse pas deviner ce qui se passe en vous. Oh, écoutez, vous ne voulez pas être gentil. Vous ne voulez pas me répondre d'abord un peu avec vos yeux pour que je devine ce que vous pensez. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas me répondre avec ses yeux. Oh, c'est affreux en ce moment. J'ai l'impression que je m'enlise. Oh, vous savez que j'aimerais mieux une paire de claques qu'un mot trop méchant. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais en parlant? Qu'est-ce qu'elle va me répondre avec ses yeux-là, avec ce sourire-là? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Oh, ben, ça ne fait rien. Tant pis, allez-y maintenant. Allez, dites, allez. Allez, dites, allez. Dites. Allez.
Je t'aime.
Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est trop beau, ça. C'est vrai? Mais alors, ce soir?
Ce soir, je serai ici à 9h.
Oh.
Je t'aime, embrasse-moi.
Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je le fais. Je le mords.
Alors?
C'est pas Sacha Guitry?
Oui, tout à fait. Et le film, c'est Faisons un rêve. Bon, ben là, il essaie de séduire une femme mariée. Donc, film sorti en 1936. C'est pour ça que le son n'est pas non plus forcément idéal. On retrouve un troisième extrait cette fois-ci. Alors, ben là, c'est plus quelqu'un qui a réalisé lui-même.
J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler.
Pourtant, ça serait agréable de vivre sans parler.
Oui, ça serait beau, hein. Ça serait beau, hein. C'est comme si on s'aimerait plus. Seulement, c'est pas possible. On n'y est jamais arrivé.
Mais pourquoi? Les mots devraient exprimer exactement ce qu'on veut dire. Est-ce qu'ils nous trahissent?
Il y a ça, mais nous les trahissons aussi. On doit pouvoir arriver à dire ce qu'on a à dire, puisqu'on arrive à bien écrire.
Voilà, alors...
Boris Vian?
Non, c'est pas non, Boris Vian. C'est un film de... Alors, c'est Anna Karina, la voix féminine.
Oui.
Et c'est un film de Godard. Un autre indice, c'est une prostituée dans ce film. C'est 13 tableaux, son 13 tableaux. C'est Vivre sa vie. Et l'écrivain, c'est un écrivain philosophe, pour le coup, c'est Brice Parrain, qui est dans un peu dans son propre rôle. Il est là, il est en train d'écrire dans un bar. C'est pas facile, mais bon, c'est quand même une scène voilà, où il parle pendant 10 minutes, hein, comme ça. Voilà.
Pourtant, j'ai vu le film, mais je ne m'en rappelais plus.
Oui, oui. Plus. Bon. Allez, dernier extrait.
Et quand on veut exercer la mendicité à Londres, doit acquérir une licence de la maison Jonathan, Jeremiah, Pitchum & Co. 20 shillings.
10, monsieur Pitchum.
20. Et 50% sur la recette hebdomadaire.
Monsieur Pitchum.
Alors, bon, on a à peine entendu...
Bernard-Henri Lévy.
Non, pas du tout. Donc, le film, c'est adapté d'une grande pièce de Brecht, l'opéra de Katsu. Et c'est Pabst qui fait le film. Deux versions, une version française et une version allemande. Alors, la version française, dans la version française, mais là, on allait entendre Antonin Artaud. Qui joue dedans, qui a un petit rôle. Voilà, il joue un des voleurs et il doit donner tous ses sous.
Nous qui nous attendions à entendre Bike BD pas du tout. En extrait.
Non, ou... je voulais absolument rien de contemporain. Ce sera pour une autre fois. Voilà, ainsi s'achève donc ce blind test. Nous allons maintenant passer au polar.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Sur Divergence FM.
Alors, je vais vous parler de polar. En parlant des polars, justement, des années 80. Alors, Polar n'est pas la première adaptation d'un roman de Jean-Patrick Manchette. Hein. Il y a eu Folle à tuer, d'après Au château au dingo, Nada, de Claude Chabrol, et Trois hommes à abattre, de Jacques Deray, d'après Le petit bleu de la côte ouest, montraient à quel point les livres Un art du maître du polar français pouvaient subir des traitements opposés, voire des volte-face idéologiques assez spectaculaires. Cas flagrant pour le film de Jacques Deray, Trois hommes à abattre, hein, présence d'Alain Delon un peu obligatoire. Hein. L'ancrage politique à gauche brille par son absence et il n'y a qu'un pas pour que le film bascule du côté du polar français réac. Alors le même reproche pourrait être adressé à Polar de Jacques Brale, hein, qui se fend donc d'une adaptation curieuse de Morgue Pleine, évacuant toute la dimension sociopolitique et l'aspect gauchiste qui suinte à chaque page. Sauf que ce qui intéresse le réalisateur d'Extérieur Nuit, c'est l'atmosphère, cette ambiance un peu mortifère du film noir hollywoodien transposée dans l'univers grisâtre d'une France déprimante et nocturne.
Oui, c'est-à-dire que je ne la connais pas très bien, mais elle est venue me voir ce soir et elle m'a dit que sa copine était morte.
Et où est-elle maintenant?
Qui ça?
Bah Charlotte Le Dantec.
Mais je ne sais pas. Elle m'a assommé.
Elle vous a assommé?
Ouais. Et puis il est parti. Écoutez, ça fait déjà 4 fois que je déballe tout ça.
Eh ben, ça fera 5.
Et merde.
Et montez.
Alors, Polar est un hommage à la série noire, un exercice de style en creux, sacrifiant volontairement une intrigue cousue de fil blanc pour nous immerger dans un climat somnolent et gentiment dépressif, à l'image de son privé, Eugène Tarpon, idéalement interprété par un Jean-François Balmer tout simplement génial. Alors Tarpon est l'anti-privé par excellence, fauché, pas glamour pour un sou. Il vit dans un petit appart minable, il traîne son ennui en s'envoyant du pastis Duval et appelle sa mère tous les soirs, apparemment sourde. Alors le dosage de clichés d'usage du privé et d'éléments insolites fonctionne très bien. Tarpon était un ancien CRS qui a gravement blessé un manifestant. Détail anodin, mais qui enlève toute vision romantique de ce flic déchu. Alors Tarpon, c'est vraiment un minable, mais un minable touchant et tellement désabusé par l'humanité que l'on en vient à se sentir assez proche. Alors l'ennui ne dure jamais vraiment, comme dans tout bon polar à l'ancienne. Une femme plus ordinaire que fatale débarque un jour chez lui pour lui confier une affaire. Une de ses amies actrices est morte assassinée. Alors Tarpon, peu motivé, l'incite à appeler la police. La jeune femme refuse, prétextant qu'elle se ferait automatiquement accuser vu que ses empreintes sont sur la victime. Alors paniquée, après un bon coup de pied dans les valseuses, elle s'enfuit. À partir de là, la vie morne du détective va basculer. Alors Polar devient une sorte de cauchemar éveillé, ironique, un de ces exercices de style chandlerien transposé dans un Paris hors temps et hors mode. Alors les décors sont sinistres, les costumes gris, les lieux cafardeux. On est à l'opposé du clinquant proposé par un film comme La Lune en caniveau, sorti la même année. Alors, comme dans Le Grand Sommeil, on est vite largué par une intrigue qui fait apparaître et disparaître des personnages comme par enchantement, un récit sinueux qui brosse une galerie de personnages assez cocasse, quoi, comme entre gangsters irréels, un journaliste poivreau, des flics désabusés, et puis aussi un cinéaste porno trouillard incarné par Claude Chabrol. Ah. Alors un univers interlope très français que n'aurait pas renié Léo Mallet ou l'auteur de bande dessinée Jacques Tardy. Voilà, donc je trouve que c'est un polar assez attachant et assez original, même si je conseille aussi de lire le roman Morgue pleine de Manchette, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre.
Polar est disponible en DVD. Nous passons maintenant à un spécial Boulevard de la Mort.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Sur Divergence FM.
Il a du charme.
Tu connaîtrais quelqu'un de confiance qui pourrait me raccompagner chez moi ?
Princesse, votre carrosse vous attend. Il a du style.
Tu as peur de moi ? C'est ma cicatrice.
C'est ta voiture.
Et il a une bagnole mortelle.
Alors Pam, c'est par où chez toi, à gauche ou à droite ?
À droite.
Ah, c'est dommage. Parce que t'as choisi d'aller à droite.
Alors rappelez-vous, dans Boulevard de la Mort, Tarantino parvenait à lier féminisme et fétichisme. Une bande de filles délurées et sexy y affrontait un tueur interprété par le revenant Kurt Russell, psychopathe misogyne qui assassinait ses victimes à l'aide de sa voiture. Une voiture qui devient donc ici une arme létale hautement symbolique de la guerre des sexes. Alors, je ne vous parlerai pas de ce qui est devenu Kurt Russell, qui, comme Travolta ou Pam Grier avant lui, a vécu grâce à Tarantino un comeback réussi, mais plutôt des comédiennes du film qui y portent les tongs en plastique de façon aussi érotique qu'une paire de talons aiguilles. Commençons eh bien, par Rose McGowan, qui a dans le film la double malchance d'être blonde et tuée en première, ce qui, c'est vrai, va souvent ensemble. Alors, après une carrière télévisée fructueuse, eh bien, le diptyque Grindhouse, composé donc de Boulevard de la Mort et de Planète Terreur, semblait lui assurer une percée honorable au cinéma. Si elle n'a ici qu'une apparition longue de 2 scènes, puisque c'est donc la première à être tuée, sa participation au second volet Planète Terreur de Robert Rodriguez est bien plus glorieuse, puisqu'elle y interprète le premier rôle et non des moindres, celui d'une stripteaseuse unijambiste qui fond en larmes dès qu'elle fait de la pole dance. Elle finit d'ailleurs par se fiancer avec Robert Rodriguez suite au tournage. Mais manque de chance, eh bien leur rupture mettra également un terme à son début de carrière et son apparition dans Machete du même réalisateur sera coupée au montage, comme quoi mieux vaut attendre la sortie de son film en salle avant de rompre avec le réalisateur. Même triste destin pour Zoé Bell, la seule du casting à ne pas être comédienne mais cascadeuse. C'est notamment elle, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui se retrouve accrochée au capot avant de la voiture lors de la course-poursuite finale. Je vois qu'il y en a un qui suit, c'est Manu. Alors, elle est au moment du tournage de Boulevard de la Mort en couple avec Tarantino, Mais pour elle aussi, eh bien, la rupture sera synonyme de fin de carrière. On la retrouve par la suite dans Django Unchained. Et si vous ne vous souvenez pas de l'avoir vue, ben, c'est normal puisqu'elle interprète en fait l'un des membres du Ku Klux Klan et donc elle porte une cagoule. Voilà. Alors, on aurait pu penser ensuite que Vanessa Ferlito, quant à elle, aurait eu plus de chance puisqu'elle interprète dans Boulevard de la Mort la scène la plus mémorable, à savoir la scène dite de la lap dance.
Cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky tonk down in Mexico.
Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. His eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky tonk down in Mexico. In Mexico,
all of a sudden in walks a chick.
In Mexico,
Joe starts playing on a Latin kick.
In Mexico,
scène donc qui entre au panthéon des meilleurs moments de danse filmés par Tarantino juste après le duo Travolta-Thurman de Pulp Fiction et la danse du ventre pseudo-zoophile entre Salma Hayek et son python dans Une nuit en enfer. Cela ne lui ouvrira pas pour autant les portes du cinéma puisque son film suivant sera l'une des pires suites jamais réalisées, à savoir Wall Street 2, L'argent ne dort jamais. Pour finaliser sa descente aux enfers, elle deviendra même végétarienne ainsi qu'une fervente défenseuse du droit des animaux, ce qui n'est en général pas très bon signe pour une carrière comme on a pu le voir avec Gwyneth Paltrow ou Brigitte Bardot. Rosario Dawson, et bien pour finir, c'est finalement celle qui s'en sortira le mieux dans le casting, mais c'était également la seule à avoir une carrière antérieure significative. Elle poursuivra son chemin au cinéma de façon réussie, notamment avec Trans de Danny Boyle, et nous la retrouvons et bien, cette rentrée-ci dans l'un des films les plus attendus, puisqu'elle interprète le premier rôle de Sin City 2, J'ai tué pour elle. Et on va maintenant se quitter eh bien, avec l'un des extraits de la BO de Boulevard de la Mort, c'est Chic Habit de April March.
Dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève cette émission que nous avions sous-titrée Eros et Thanatos, enfin Eros, presque Eros. La semaine prochaine, on se retrouvera avec une interview, Marine.
Oui, entre autres celle de Laurent Lafitte, qui sera donc à l'affiche de Elle l'adore et que nous avions interviewé à cette occasion. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.